Radio Barque, deuxième partie. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie. C'est une lapalissade du sommaire. Tu souhaites tout d'abord, Michel, aller faire un tour au cimetière de Bages sur la tombe de Dumayet. Peux-tu nous expliquer ?
Oui, Jean-Claude. Comme chaque année, avec mon épouse, nous nous rendons au cimetière de Bages d'abord et de Périac ensuite, qui sont les cimetières où sa famille est enterrée, une partie de sa famille est enterrée. Et notamment, bon, à Bages, où elle, chaque année, elle apporte un bouquet de fleurs blanches, en mémoire de sa petite sœur qui est morte et qui aurait aujourd'hui 82 ans.
Et alors, Dumayet dans tout ça.
Et chaque année, nous passons devant la tombe de Dumayet, qui est à quelques mètres seulement de cette tombe-là familiale.
Alors, rappelons en deux mots quand même qui était...
Oui, j'allais y venir. Alors, Pierre Dumayet, pour ceux qui ne le connaissent pas, je parle de nos auditeurs, est un immense personnage, en tout cas pour des gens de ma génération. Est un immense personnage de la télévision française.
Oui, c'était un des grands pionniers
C'est le créateur de 5 colonnes à la nuit. C'était l'époque de la télévision où il n'y avait qu'une chaîne, qu'une seule chaîne. Hein. C'est le créateur de 5 colonnes à la une, qui était une émission suivie par des millions en fait, de téléspectateurs. C'était aussi l'animateur d'une autre émission importante, Lecture pour tous, qui a beaucoup appris en fait, à ses auditeurs d'auteurs qui n'étaient pas forcément connus d'eux et qui leur a donné le goût en fait, de la lecture. C'était aussi un homme, c'était un écrivain, quoi. C'était un écrivain, c'était un homme de lettres. Il a écrit notamment, dans la dernière partie de sa vie, des ouvrages édités par une maison d'édition audoise. Ce sont les éditions Verdier installées à La Grasse. Et il est mort en 2011.
Et il avait une maison à Bages.
Il est mort en 2011 à Bages, où il résidait. Il avait acheté une maison, en fait, à Bages, où il résidait avec sa femme, Françoise, qui était elle-même une artiste, un peintre. Et cette tombe-là est dans un état pitoyable. Hein. Des chaînes brisées, le terre-plein, en fait, qui recouvre, effectivement, sa dernière demeure défoncée. Une croix sur le côté dans un état, en fait, bon, pitoyable. Bref, une tombe qui n'est pas du tout, en fait, qui n'est pas du tout, à la dimension de cet homme. Quoi. C'était un homme d'une élégance, à la fois dans son comportement, dans son propos, dans son écriture, d'une élégance extrême, qui était d'une sympathie vraiment incroyable. Je l'ai croisé un jour dans les rues de Narbonne, c'était un dimanche, il cherchait la pharmacie de garde. Je l'ai accompagné pendant quelques centaines de mètres qui nous en séparaient, du lieu où je l'avais rencontré. Et donc j'ai eu l'occasion de bavarder avec lui, lui dire mon admiration, en fait, le nombre d'auteurs qu'il m'avait fait découvrir, en fait, grâce à son émission. Bref, un homme délicieux. Et de voir chaque année, cette tombe là délaissée dans un état en fait, lamentable, cela me fait mal au cœur. Alors je ne sais si la mairesse de Bages m'entend en fait, hein, mais je voulais lui faire passer ce message là que c'est vraiment dommage et franchement pas acceptable, hein, pour la dignité de cet homme, quoi, hein, même s'il n'est plus de ce monde, que cette tombe là soit dans un tel état d'indignité, esthétique en tout cas, et donc morale. Donc,
Même si cet entretien incombe d'abord quand même aux descendants plutôt qu'à la mairie de Bages.
Bien sûr, mais je me suis promis, en fait, les jours à venir, hein, d'y repasser. Et si je ne voyais qu'effectivement, il n'y avait même pas l'ombre d'une fleur, en fait, sur cette tombe, j'irais moi-même, en fait, en acheter un pot et puis les déposer là. Voilà, comme ça. Tout à fait simplement au pied de cette dernière demeure de ce grand monsieur.
Alors, de la tombe de Dumayet à Bages à l'Aglo et son extension qui est en projet, qui pose un certain nombre de problèmes. On en a évoqué précédemment,
voilà,
On
en a dit deux mots la semaine dernière. On y revient pourquoi ? Parce que c'est vrai que, comme je le rappelle aux auditeurs, le schéma proposé par le préfet de département pour harmoniser, comme la loi le lui oblige, hein, les différents périmètres des collectivités territoriales, notamment des communautés de communes et des communautés d'agglomération du département, implique la disparition d'une communauté de communes qui est celle des Corbières, donc Péripertus, Cucugnan, en fait, etc. Et le préfet propose que 12 communes de cette communauté soient rattachées à la communauté d'agglomération de Narbonne.
Du Grand Narbonne.
Alors la procédure, en fait, qui est très longue, hein, puisque si elle aboutit, elle va jusqu'à son terme, et son dernier terme, hein, devrait effectivement boucler cette opération en décembre 2016. Donc aujourd'hui, dans l'état de la procédure, une fois que les élus ont été ont pris connaissance du document proposé par le préfet, chacune des collectivités, des communautés, membres des communes, de la communauté de communes des Corbières, comme celles d'ailleurs membres de la communauté d'agglomération de Narbonne, doivent se prononcer sur ce schéma proposé par le préfet. Oui ou non. Donc les conseils municipaux sont en train de délibérer aujourd'hui sur oui ou non, on accepte ou pas l'arrivée de ces 12 communes. Et ce qu'il y a presque de classique dans ce genre de situation, c'est que nombre, pour ne pas dire toutes, nombre des communes qui vont disparaître, qui vont sortir de la communauté de communes des Corbières qui va disparaître, sont contre. Et mais aussi, et ce qui est plus paradoxal, donc en première approximation, nombre de communes, membres de l'actuelle communauté d'agglomération. Alors non pas pour des raisons qui tiennent à l'intérêt qu'auraient effectivement les communes de la communauté du Grand Narbonne de voir arriver dans ce périmètre élargi des communes comme Paris-Pertuse ou Cucugnan, parce qu'effectivement, d'un point de vue, politique, d'un point de vue de la stratégie en termes d'aménagement de territoire, enfin, en termes de tourisme, etc., il y a un intérêt certain à voir arriver ces communes dans le périmètre et sous la gouvernance d'un Grand Narbonne. Mais pour des raisons de principe, disait-elle, à savoir que, bon, ben là, c'est pas au préfet de nous imposer que...
Oui, or,
la procédure, quoi qu'on en pense, comme la loi, quoi qu'on en pense aussi, impose qu'effectivement ce soit le préfet qui fasse ce travail de préfiguration et qui propose effectivement. Alors, cela dit, même si les communes, à la majorité des deux tiers, étaient contre du périmètre concerné,
ça passerait quand même.
Au final du final,
au bout du compte,
en décembre 2016, bon, c'est au bout du compte, ça passera.
Oui.
Sauf s'il y a un accord entre le préfet et, effectivement, les communes en question.
Alors,
voilà. Alors, autre petite information sur le sujet, mais notre invité pourra en parler.
Justement, nous allons donner la parole à notre invité du jour.
Autre petite information, oui, mais qui en plus, bon, bah, je le dis, mais même si il n'a pas forcément envie d'intervenir sur ce sujet-là, bon, ça l'intéresse directement, parce que, outre le fait qu'il est le maire de Saint-Marcel, il va être surtout, voilà, je déflore un peu le sujet, quoi. Il va être l'élu référent pour qui suivra attentivement les travaux du futur conseil de développement du territoire en question. Donc voilà, ça intéresse à un double titre, ce genre de situation et ce genre de procédure.
Alors justement, Guillaume Heras, en tant que vice-président de l'agglo, donc très impliqué dans cette agglomération, et en tant que responsable, comme vient de le dévoiler Michel.
Pas encore, mais...
Oui, enfin, en tout cas, c'est dans l'air.
Officiellement.
Dans cette émission, on appelle un chat un chat. Alors, soyons très clairs. Comment voyez-vous, justement, ce dossier, Guillaume Heras?
Oui, effectivement, je serais intervenu sur ce sujet qui est assez, assez compliqué pour ces communes. La première chose que je voudrais dire, quand même, c'est que dans la France entière ont lieu donc ces schémas de cohérence territoriale et on est aussi dans une simplification du millefeuille administratif et adossé à cette décision effectivement difficile du préfet, il faut savoir qu'on supprime beaucoup de syndicats et donc ça c'est une bonne chose pour la
des syndicats intercommunaux vous
des
voulez
syndicats
dire,
intercommunaux qui se regroupent qui ont des frais de fonctionnement donc on mutualise et on clarifie, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup du millefeuille administratif, mais depuis quelques années, des syndicats disparaissent et ce sont des économies. Et voilà. Pour cette partie-là, je crois que la position du Grand Narbonne et donc le président Jacques Bascou, après deux intégrations de communautés de communes dans le périmètre, a toujours eu une position très importante, c'est de dire nous ne pouvons pas avoir et nous ne voulons pas avoir de position hégémonique, dans le sens où il appartient effectivement à la démocratie de s'exprimer et aux communes de s'exprimer. Alors ça c'est la première des positions. Donc il faut entendre ces communes et leurs présidents de communautés de communes. Moi, la deuxième des choses que vous avez dites aussi, c'est que si on arrivait au bout d'un processus démocratique et une décision entérinée par le préfet, par un élargissement du périmètre, il faudrait recevoir ces communes comme il se doit pour une intégration réussie. Et alors, ce n'est pas sûr qu'on en arrive là, mais comme vous l'avez dit, Michel, elles amèneraient une richesse dans la communauté d'agglomération par, comment dire, cette compétence tourisme qui arrive avec ces châteaux cathares. Et puis aussi, il faut pas oublier le côté viticulture. Et je pense que l'agglo pourrait leur amener également beaucoup. Mais laissons ces communes s'exprimer, laissons la démocratie, les conseils municipaux, les communautés d'agglomération s'exprimer, parce que le plus important, c'est de ne pas avoir une position hégémonique là-dessus. Nous ne le souhaitons pas.
Voilà. Donc si je comprends bien, il s'agit de souhaiter des communes qui arrivent de leur plein gré et non pas de force.
C'est tout à fait ça.
Voilà. Mmh. Mais avec forcément à la fin...
Mais avec un couperet quand même final.
Voilà. Une décision qui prendra en compte tous ces éléments, tous les desiderata,
qui tombera,
et qui tombera.
Voilà. Nous marquons une deuxième pause, après quoi nous retrouverons de nouveau Guillaume Heras, et cette fois-ci nous consacrerons toute l'interview à sa commune et à sa responsabilité de vice-président du Grand Narbonne.